le magazine des Nations Unies.
Mettez des mécanismes de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus, c'est la recommandation de Bintou Keïta à l'Ouganda et à la RDC par rapport aux opérations militaires conjointes initiées par les deux pays pour la traque des ADF. La chef de la MONUSCO a réitéré la position de la mission lundi dernier devant le Conseil de sécurité à New York. La MONUSCO, justement, organisera le 20 décembre prochain un séminaire virtuel d'affaires pour les fournisseurs en RDC. Pour parler de l'événement, nous recevrons l'adjoint du chef de la section achat de la MONUSCO dans Décryptage. Enfin, 73e anniversaire de la journée des droits de l'homme, c'était vendredi 10 décembre dernier. La RDC, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré l'événement. Comment cette commémoration a-t-elle été vécue dans la capitale Kinshasa? La réponse dans quelques instants. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ces rendez-vous dominicales de Magazine des Nations Unies. Nous ouvrons cette page d'actualité par les activités de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Bintou Keïta a présenté lundi le rapport du secrétaire général sur la situation en RDC au Conseil de sécurité de l'ONU à New York. L'aspect sécuritaire lié aux opérations conjointes FRDC-UPDF a été sans doute l'un des points abordés par la chef de la MONUSCO. Madame Bintou Keïta dit avoir pris note de la décision souveraine de la RDC d'amorcer ses opérations militaires conjointes avec l'Ouganda au nord Kivu et en Ituri. Cependant, elle affirme avoir souligné aux deux pays, c'est-à-dire à l'Ouganda et à la RDC, la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus, mais aussi de permettre à la MONUSCO de continuer d'appuyer les FRDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés conformément à son mandat. On l'écoute.
Dans mes interactions avec les plus hautes autorités des deux États, j'ai pris note de la décision souveraine de mener cette action militaire conjointe et j'ai souligné la nécessité absolue de mettre en place des mécanismes opérationnels de coopération afin d'assurer la sécurité des casques bleus des Nations Unies et de permettre à la mission de continuer d'appuyer les FRDC dans la protection des civils et la neutralisation des groupes armés conformément au mandat qui lui a été accordé par ce Conseil. Ces mécanismes sont en train d'être mis sur pied. À cette fin, le 2 décembre, le commandant de la force de la MONUSCO s'est rendu à Kampala pour définir avec les autorités les modalités pratiques de cette coordination tripartite qui couvrira, entre autres, les aspects liés à la sécurité de l'aviation, la protection des forces participant aux opérations et l'accès humanitaire aux populations affectées. Demain, le commandant de la force sera à Kinshasa pour rencontrer la hiérarchie militaire des FRDC afin de poursuivre ce dialogue initié à Kampala. Je tiens également à souligner que la MONUSCO, dans le cadre de son mandat, va continuer de suivre et rapporter toute violation éventuelle des droits humains commises sur le territoire congolais.
Vendredi 10 décembre 2021, la communauté internationale a célébré la 73e anniversaire de la Journée des droits de l'homme, en souvenir bien entendu du jour où, en 1948, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette année 2021, le thème retenu est « Réduire les inégalités, faire progresser les droits de l'homme ». À Kinshasa, le ministère des Droits humains et le Bureau conjoint des Nations Unies ont organisé une cérémonie commémorative marquée par une série d'activités culturelles. Le point dans ce rendu de Vicky Odia.
La cérémonie a eu deux temps forts. D'abord, les discours. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a axé son intervention sur les inégalités exacerbées par la pandémie de COVID-19.
Et il est de plus en plus admis que les inégalités font notamment obstacle au développement économique, à la stabilité politique et à la paix.
Et pour Aziz Abdoul Tsoye, il convient de lutter contre ces inégalités en RDC en relevant certains défis.
L'abolition de la peine de mort, l'urgence d'une loi sur l'accès à l'information et la nécessité d'une loi contre l'incitation à la haine raciale, le tribalisme et la xénophobie pour faire face à la montée du discours.
Le ministre des Droits humains, Fabrice Puella, a saisi l'opportunité pour honorer la mémoire de ceux qui ont fait progresser les droits de l'homme en RDC avant d'inviter à la réflexion autour des inégalités dans le monde.
Nous avons une pensée pieuse pour Floribert Chebeya, d'heureuse mémoire, son compagnon Fidel Bazana, Rossi Mukendi, Luc Nkulula, Pascal Kabengele et tant d'autres défenseurs des droits de l'homme.
Enfin, le deuxième temps fort a été sans doute les récitals Zéro Violence du jeune slammer Zico Mwanga et la représentation scénique d'un ballet d'étudiants.
Justice doit être rendue au peuple pygmé expulsé du parc national Kahuzi Biega en reconnaissant leur droit à la terre. C'est l'essence à donner au plaidoyer mené par l'organisation Environnement, Ressources naturelles et Développement. Elle l'a fait savoir dans un point de presse lundi à Kinshasa. Le conseiller technique de l'organisation a exhorté les autorités de la RDC à adopter des nouvelles politiques qui intègrent ces communautés sur leurs terres. On écoute Maître Innocent Bissimwa dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
C'est les autochtones eux-mêmes qui disent que la réintégration serait la solution idéale pour eux, parce qu'ils vivent aujourd'hui une situation où ils n'ont pas de terre, ils accèdent difficilement aux services sociaux de base et aux ressources naturelles. Mais comme demande secondaire, ils ont sollicité aussi que si le gouvernement pouvait les allouer d'autres terres répondant aux mêmes conditions que celles du parc de Kahuzi Biega, où ils vont accéder aux ressources, aux services sociaux de base. Aussi, vous le savez que la loi congolaise garantit la propriété acquise sur base de la coutume et sur base aussi de la loi. Et c'est vraiment un peuple en voie de disparition, parce qu'ils sont déjà acculturés, ils ont perdu leur religion, ils accèdent difficilement aujourd'hui aux soins médicaux alors qu'ils avaient des plantes médicinales, parce que pour eux, la forêt était le supermarché, était la pharmacopée, était le centre culturel, et que donc l'État devrait tirer attention par rapport à ces communautés-là qui sont numériquement faibles pour essayer un peu de les protéger et essayer un peu de garantir leurs droits. Tout en conservant la nature, tout en conservant la biodiversité, il faut vraiment avoir un regard aussi sur les communautés qui dépendent de ces aires protégées, qui dépendent de ces forêts, parce que leur vie aussi en dépend.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Nous le disions en titre, la MONUSCO organise ce 20 décembre un séminaire d'affaires pour les fournisseurs de la RDC intitulé « Comment faire des affaires avec l'ONU ». Avec M. Hicham Mawal, nous allons faire le point sur l'intérêt, l'objectif et le contenu de ces séminaires dans le cadre des activités d'approvisionnement et d'information sur les procédures de passation des marchés de l'ONU en RDC. Suivez. Hicham Mawal, bonjour.
Bonjour.
Quand on parle de la MONUSCO et des Nations Unies, on pense à la paix, à sa restauration et à sa consolidation. Mais un séminaire d'affaires pour le fournisseur, ce n'est pas si courant ici en RDC. Hein. Quel sens donnez-vous à votre initiative et quel est l'intérêt d'un tel séminaire et même de son objectif?
Vous savez, la MONUSCO, comme toutes les opérations de maintien de la paix, n'est pas une entité entièrement autosuffisante. Pour mettre en œuvre efficacement son mandat et aider le gouvernement de la République démocratique du Congo à instaurer une paix stable et durable, la mission a besoin de biens et de services provenant de sources internationales et nationales. Si les groupes ou les troupes, on va dire, de la MONUSCO viennent avec leur propre équipement, par exemple, ils ont néanmoins besoin de nourriture, de carburant, de logement et d'autres formes de soutien logistique qui doivent être achetés sur le marché local. Il est important que les entrepreneurs locaux en soient conscients et comprennent comment la MONUSCO gère les appels d'offres publiques afin de permettre à un grand nombre d'entreprises locales de participer à ces procès. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à sélectionner les meilleurs partenaires possibles. Alors, en fin de compte, notre objectif, c'est d'atteindre un plus grand nombre de fournisseurs locaux et de leur donner l'opportunité de bien s'informer et de bien se renseigner sur les opportunités des affaires avec la mission et les Nations Unies en général. Les séminaires d'affaires font partie intégrante des activités d'achat au sein de l'Organisation des Nations Unies. Ils nous aident à mieux connaître le marché local, à mieux collecter, analyser les informations sur les capacités, par exemple, du secteur industriel et l'offre du marché.
Et quelles sont les matières de ces séminaires et ou même les contenus?
Le séminaire s'articulera principalement sur trois axes. Le premier, c'est les chiffres d'achat de l'ONU en général et les chiffres d'achat effectués à l'intérieur de la République démocratique du Congo. La deuxième partie fera l'objet du processus de passation des marchés à l'ONU qui est toujours au centre de toute discussion avec les fournisseurs. Et la troisième partie, c'est le marché mondial des Nations Unies et là, c'est quand même une étape primordiale pour les fournisseurs car ça concerne l'enregistrement des fournisseurs sur la plateforme mondiale qu'on met à leur disposition. Ces éléments, en gros, permettront aux fournisseurs potentiels de mieux se renseigner sur les activités d'acquisition de biens et services de la mission et bénéficier des conseils pratiques et des informations sur les procédures d'achat, en gros, ainsi que identifier des opportunités à travers la plateforme UNGM, car c'est quand même la porte d'entrée pour les fournisseurs potentiels pour faire ou pour décrocher des contrats avec les Nations Unies.
La RDC n'est pas suffisamment couverte par Internet. Est-ce que vous avez tenu compte de cet handicap et comment vous allez vous y prendre pour avoir beaucoup plus de fournisseurs potentiels?
Le séminaire devait se dérouler l'année passée ou même plus. Mais vu la pandémie à laquelle on fait face, on n'a pas pu le faire. Alors, ce qu'on a envisagé, c'est que on a envoyé une invitation à tous les fournisseurs enregistrés au sein, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, et on a aussi donné l'option pour les fournisseurs qui peuvent éventuellement faire face à des difficultés et des défis de connexion sur Internet ou qu'ils n'auront pas les outils nécessaires pour pouvoir suivre le séminaire virtuellement, de venir physiquement à UTEX et d'assister au séminaire dans l'une des salles de conférence. Or, avec l'apparition du nouveau variant et avec les mesures sanitaires, nous avons récemment décidé d'amender notre invitation et d'informer toutes les parties concernées que la participation sera uniquement virtuelle. Alors, pour répondre à votre question par rapport à des fournisseurs qui peuvent éventuellement avoir des soucis de connexion et de connectivité, on va dire, on a mis en place une équipe qui va être dédiée pendant le séminaire pour justement donner un coup de main à tous les fournisseurs qui veulent et qui souhaitent participer virtuellement pour faire face ou plutôt pour surmonter des problèmes techniques de IT ou d'Internet ou de connexion.
Parmi les matières de ces séminaires, des formations, des fournisseurs, vous avez par exemple cité les informations sur les procédures de passation des marchés. Et quelle serait alors, monsieur Hicham, quelle serait la singularité de ces procédures pour les hommes d'affaires vus sous l'angle des valeurs des Nations Unies?
Effectivement, les procédures de passation seront au centre de notre présentation lors du séminaire. Il est nécessaire pour l'ONU ou pour l'organisation, on va dire en général, et la mission en particulier, d'optimiser ses ressources dans l'achat des biens et services et travaux, dans la mise en œuvre de son mandat et des mandats en général qui lui ont été confiés par les États membres. Cette activité est généralement, ou plutôt, on va dire, elle est forcément faite avec équité, avec intégrité et transparence. C'est dans ce contexte-là qu'on partagera les valeurs et les principes généraux qui exigent un respect total lors de la réalisation d'activités d'achat. Je les cite, le meilleur rapport qualité-prix, équité, intégrité et transparence, concurrence internationale efficace et l'intérêt de l'ONU qui vient aussi prendre une place importante. Ces principes généraux qui régissent l'activité des acheteurs au sein de l'Organisation des Nations Unies sont largement partagées avec les fournisseurs pour qu'ils sachent dans quel cadre nous exerçons notre activité d'achat.
Et à quelle catégorie d'hommes et d'affaires s'adressent ces séminaires de formation?
Toutes catégories confondues. Je dirais que nous n'avons pas une idée précise par rapport au segment ou à la catégorie d'entrepreneurs que nous aimerions attirer ou faire participer dans ce séminaire. Mais nous ciblons par contre particulièrement les petites et moyennes entreprises implantées à Kinshasa et dans les autres provinces. Nous, surtout les petites entreprises dirigées par de jeunes entrepreneurs, par des femmes ou par des petites associations ou fondations et toutes sortes d'entités commerciales.
Vous comptez pratiquement avoir combien de fournisseurs?
On a une liste de 50 fournisseurs enregistrés. Nous avons passé à la vitesse maximale, c'est-à-dire que on a envoyé un rappel. On a approché, comme je viens de le dire, la Chambre de commerce pour qu'ils puissent nous donner un coup de main pour pouvoir approcher d'autres fournisseurs. Nous avons aussi contacté les organisations internationales basées à Kinshasa pour qu'ils puissent nous communiquer leur liste de fournisseurs. On est en train de faire aussi le nécessaire auprès de votre plateforme pour qu'on puisse aussi disséminer l'information à un plus large public. On a aussi l'idée de mettre l'événement sur des journaux avec lesquels on travaille habituellement pour publier nos sollicitations. Alors on est en train de quand même faire tout notre possible pour pouvoir attirer le maximum de fournisseurs à cet événement.
Alors, l'issue de cette formation susciterait beaucoup d'attentes, voire une ruée des participants vers les offres des marchés de la MONUSCO. Comment comptez-vous gérer cette pression? Est-ce que cela ne serait pas un peu en contradiction avec les mandats de la mission?
La réalité, bien que nous soyons un partenaire commercial pour de nombreuses entreprises locales et internationales, nous ne sommes clairement pas une entreprise à but lucratif.
Il y aura quand même un engouement, monsieur Hicham.
Ben oui, tout à fait. Mais c'est ça aussi l'objet du séminaire. En ce sens, il est essentiel dans ce contexte que nous puissions nous procurer des biens et des services à un prix compétitif. Pour moi, ces ateliers ne sont donc pas en contradiction avec notre mandat, mais plutôt ça constitue un aspect essentiel et primordial et je dirais même sine qua non pour la mission, pour nous permettre de remplir notre mandat.
Et monsieur Hicham, je vous remercie.
Merci beaucoup monsieur. Au revoir.
Commençons cette page des nouvelles par la visite que vient d'effectuer la vice-présidente de la Banque mondiale pour le développement humain en RDC. Madame Martha Mouti est venue réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale à la réponse de la RDC à la pandémie de COVID-19, de même qu'à l'enseignement primaire gratuit et aux autres aspects de la valorisation du développement du capital humain. À Kinshasa, elle s'est entretenue avec le président Félix Antoine Tshisekedi, le ministre des Finances, celui de l'Éducation, le ministre de la Santé et le ministre des Affaires Sociales. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, célèbre cette année ses 75 ans d'existence. Depuis 1946, cette agence des Nations Unies continue de travailler sans relâche en faveur des droits et du bien-être de tous les enfants. L'UNICEF, qui œuvre dans 191 pays, les accompagne pour défendre les droits de chaque enfant, où qu'il soit. De concert avec ses partenaires, l'agence relève les défis et intervient en apportant une aide à des millions d'enfants afin d'améliorer leur survie et leur épanouissement. Au sud-est du pays, plus de 100 élèves de la cité des Fungourmé ont été sensibilisés jeudi dernier sur les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette rencontre organisée par l'ONG ADID, Action pour le développement intégral et durable, entre dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les participants se sont dit suffisamment édifiés et ont promis de dénoncer tous les auteurs de ces actes de violence.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité ce dimanche est le professeur Kaindo Mouessi de l'Université catholique du Graben à Boutembo. Cette éminente église propose, vous allez l'entendre, une forte sensibilisation de la population pour la cohabitation pacifique des communautés et le renforcement du système de défense et de sécurité pour, dit-il, prévenir des génocides et des crimes graves dans la partie est du pays. C'est à l'occasion de la Journée internationale des commémorations des victimes du crime des génocides et il est interrogé ici par Grace Hamzati.
Professeur Kaindo Mouessi, bonjour.
Bonjour.
C'est 9 décembre, le monde célèbre la journée des commémorations des victimes des crimes des génocides, d'affirmation de leur dignité et de prévention. Quel sens vous accordez à une telle journée?
Oui, le sens de cette journée est à situer dans le contexte justement de la lutte contre, n'est-ce pas, les génocides, qui est grand fléau auquel le monde entier est confronté. Et il s'agit, autrement dit, de donc faire une large sensibilisation de la communauté internationale, des communautés nationales également, sur la nécessité de mettre en œuvre la Convention sur les génocides, qui est en fait un cadre de protection des populations civiles contre les génocides, mais aussi une façon de rappeler à la communauté internationale et à tous les États la nécessité, n'est-ce pas, de protéger les populations civiles contre les menaces du génocide qui sont récurrentes à l'échelle mondiale dans différentes régions de la planète.
En un mot, c'est quoi un génocide?
Un génocide, c'est en fait un acte visant à vouloir, n'est-ce pas, supprimer toute une communauté, tout un groupe. Et cela se caractérise effectivement par les atteintes à l'intégrité physique et morale et même la création de conditions susceptibles en fait de supprimer l'existence à un groupe humain.
Quel rapport peut-on établir entre cette journée et ce qui se passe dans la région de Beni et de Litori?
En fait, ce qui se passe dans la région ici a des ressemblances avec un peu les génocides, même si il appartient au juge de pouvoir qualifier, n'est-ce pas, une infraction de génocide. Mais si l'on regarde ce qui se passe, on a comme l'impression que il y aurait, n'est-ce pas, des actions allant dans le sens de pouvoir supprimer des communautés entières, même si évidemment on ne pas encore arriver à prouver que effectivement les tueurs ont pour objectif de supprimer, n'est-ce pas, des groupes ethniques bien ciblés, et on n'a pas encore prouvé effectivement que ceux qui sont tués sont des mêmes groupes ethniques. Mais ce qui est vrai, il y a des manifestations de la discrimination dans la région qui sont aussi des facteurs importants, n'est-ce pas, du génocide. Il y a la question identitaire qui est aussi suffisamment avancée dans la région. On n'a pas suffisamment fait d'enquête pour pouvoir établir des faits probants, des faits cohérents et documenter suffisamment ce qui se passe pour que effectivement cela puisse aider, n'est-ce pas, le juge, que ce soit au niveau interne ou au niveau de la Cour pénale internationale, de pouvoir aller dans le sens de qualifier ce qui se passe de génocide dans la région.
On parle aussi de l'affirmation de la dignité des victimes des crimes des génocides. De quelle manière peut-on affirmer la dignité des victimes des crimes?
Justement, l'affirmation de la dignité des victimes passerait par, n'est-ce pas, une réparation ou des efforts visant la réparation des dommages que les victimes ont subis. Et là, ça requiert en fait l'intervention des cours et tribunaux, l'intervention donc de la justice nationale, mais aussi de la justice internationale. De ce côté-là, on a comme l'impression que il n'y a pas suffisamment d'efforts par rapport à ce qui se passe dans la région. C'est vrai, on a eu une cour militaire opérationnelle qui a fait son travail, qui s'est intéressée à des collaborateurs des ADF ou à des collaborateurs du groupe armé qui commettent des actions qui seraient comparables, n'est-ce pas, à des crimes de génocide dans la région. Mais l'impression qui se dégage, c'est que ça a été une volonté, à mon avis, éphémère, parce que pour le moment, il y a les tribunaux militaires qui ont certainement arrêté beaucoup de présumés auteurs des actes qui s'apparenteraient aux actes de génocide, mais il n'y a pas encore suffisamment de procès organisés quant à ça.
Alors, que faire pour prévenir ou alors pour lutter contre le génocide, professeur?
Pour prévenir le génocide, il faut d'abord identifier les causes qui pourraient être à la base des actions de génocide. Et le plus souvent, il s'agit ici des questions identitaires, de la discrimination, des questions liées à l'accès des ressources ou au pouvoir. Après avoir compris ce qui pourrait être à la base de ces situations dans notre région, le premier effort que le gouvernement doit faire, parce qu'il lui appartient de lutter contre le génocide, il faut pouvoir renforcer son système de défense et de sécurité. Mais en même temps, il faut une large sensibilisation de la population à la cohabitation cohabitation pacifique, mais aussi créer les mécanismes de la répartition des ressources, de la répartition du pouvoir, pour que les inégalités qui pourraient être à la base de stigmatisation qui conduisent, n'est-ce pas, à des actions de génocide, ne puissent pas primer sur, n'est-ce pas, la paix sociale, la cohésion sociale.
Professeur Kaindo Moïsi, je vous remercie.
Merci.
Le Grand Équateur reste la partie la plus polluée du pays en reste des explosifs de guerre. Pour le seul mois de novembre dernier, 28 victimes ont été enregistrées, dont 3 morts. Autre conséquence, baisse des activités socio-économiques constatées dans les zones situées dans la Mongala, le nord et le sud Ubangi, ainsi que dans la Chuapa. Des précisions avec vous, Paul-Richard Malengela.
Les 3 personnes mortes, c'était à Abouzi, dans le territoire de Yakoma, province du Nord Ubangi. Alors que ces paysans incinéraient leurs champs, le feu a fait exploser une mine anti-char, laquelle les a tués sur le coup. En revanche, les 25 autres victimes encore en vie ont été soit grièvement blessées, soit mutilées par la déflagration du reste des explosifs de guerre, à savoir 13 à Ikela dans la Chuapa, 4 dans le Nord Ubangi et 8 au Sud Ubangi. Ces explosifs de guerre ont été abandonnés par les belligérants lors de multiples conflits armée que la région a connue. C'est qu'a indiqué le coordonnateur lead de la lutte anti-mine au Grand Équateur. Noël Bamopalabi a cité 14 champs de bataille et 5 champs de mines. Ce qui explique, a-t-il dit, la baisse des activités socio-économiques dans ces zones dangereuses non encore déminées. Au regard enfin des difficultés sur le terrain, Noël Bamopalabi a plaidé pour la prise en charge de nouvelles victimes abandonnées à leur triste sort comme les anciennes, mais aussi pour le financement des activités de sensibilisation à l'éducation au risque et pour le déminage humanitaire. Ces activités salutaires ont été suspendues depuis 2019 pour le Grand Équateur, a renchéri notre source. Bondaka pour Chamalingue, la radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Merci, c'est Saint-Germain des Prés pour le compte de patrinews.net. Quel est le point de vue de l'ONU SIDA par rapport à la mise en place d'un sidatorium, c'est-à-dire un centre d'hébergement des personnes atteintes du sida, afin d'éviter sa propagation à large échelle?
Cette question a été posée à Monsieur Amadou Damba, conseiller à l'information stratégique à l'ONU SIDA RDC. C'était à la conférence de presse des Nations Unies. Suivez donc la réponse du fonctionnaire onusien.
Personnellement, je ne suis pas favorable pour une raison simple. C'est la stigmatisation, c'est la discrimination. Et ça, c'est un frein aussi à l'accès aux services. Aujourd'hui, vous me voyez, vous ne savez pas si je suis positif ou je ne le suis pas. Vous verrez quelqu'un, moi je suis diabétique, mais vous prenez quelqu'un qui est séropositif aujourd'hui. Si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas savoir que cette personne est séropositive. Donc elle vit normalement sa vie du fait qu'elle a le traitement et tout. Pourquoi on va coincer cette personne-là? Donc, pour l'orphelinat, on comprend, l'enfant a perdu ses parents et tout, c'est bon qu'on l'héberge quelque part, qu'il puisse dormir, qu'il puisse manger. Mais pour le cas du VIH, de mon point de vue, ça n'engage que moi. C'est mieux de ne pas stigmatiser en les mettant quelque part, parce que si on sait que là, c'est le centre où ce sont les personnes séropositives, elles ne peuvent même pas sortir dehors, alors que cette personne peut-être mieux portante que vous, si vous souffrez d'un paludisme ou des trucs comme ça, mais elle est en forme et tout, donc elle peut travailler, elle peut tout faire. C'est ce que je peux dire par rapport à ça, et parce que la stigmatisation et la discrimination sont aussi partie de ceux qui freinent l'accès aux services. Quelqu'un aujourd'hui, même s'il a pris des risques en faisant des rapports donc non protégés, a peur parfois d'aller même là où on voit le test pour savoir. S'il sait qu'il est séropositif, imaginons c'est un étudiant, il ne veut pas qu'on le dise dans la classe parce qu'il peut être mis de côté au niveau donc de ses camarades, il peut être stigmatisé. Évitons cela.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
L'ambassade de Suède et l'Organisation internationale pour les migrations OIM signent ce mardi 14 décembre un accord de partenariat. Cet accord porte sur 6,5 millions de dollars dans un programme étalé sur 3 ans. L'objectif étant de renforcer la résilience économique des communautés affectées par les déplacements en dehors des Kalemie, dans les Tanganyika. La cérémonie aura lieu à l'ambassade de Suède ici à Kinshasa. Voilà, c'est avec plaisir que Jean-Pierre Elali Coco, Lokilolo Lingas et moi, je vous ai présenté cette émission, un numéro qui aura connu la participation de Jean-Désiré Kanyama, Paul Richard Malengela et de Grâce Hamzati. Émission à retrouver sur le site de Radio Kapi, www.radiokapi.net. Passez un excellent dimanche en compagnie des programmes de Radio Kapi, la fréquence de la paix.